Bien, nous continuons notre étude intitulée Pourquoi je crois? Nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles on peut croire en Dieu, on peut croire en la Bible, et surtout on peut et on devrait croire en Jésus-Christ et en son évangile. Et donc nous avions déjà vu beaucoup de choses sur la façon dont Dieu eh bien, s'est révélé à l'humanité. Et on a vu bien sûr que Dieu s'est révélé d'abord dans la création, hein, qu'on peut constater dans la nature eh bien, tous les éléments dont on a besoin pour effectivement comprendre que quelqu'un a conçu ces choses et qu'il y a un architecte derrière cette complexe création qui se trouve autour de nous. On a vu aussi que à travers la conscience de l'être humain, hein, le fait que l'être humain soit un être moral et qu'on trouve en lui cette conception du bien et du mal, mais aussi le concept de l'éternité, hein, qui est inscrit dans le cœur de l'homme, et de voir aussi que Dieu, eh bien, s'est révélé en intervenant dans l'histoire de l'humanité. Hein, on avait vu, par exemple, qu'à travers bien le déluge, Dieu était intervenu dans l'histoire de l'humanité et qu'on peut là aussi trouver des traces du déluge qui a inondé cette terre, de voir que à travers différentes civilisations et pays et continents, on retrouve ces mêmes récits d'un déluge comme un châtiment venu d'une divinité. Et nous allons voir également que, eh bien, Dieu s'est révélé, on l'a vu la dernière fois, s'est révélé à Abraham, hein, et à communiquer ainsi avec une personne un message important et une promesse importante, un choix que Dieu a fait à travers Abraham, et de voir que par la suite, eh bien, la descendance d'Abraham, c'est pas simplement ceux qui sont nés d'Abraham, mais tous ceux qui, comme lui, croient en Dieu, hein, qui vivent par la foi, parce que c'est ce que les Écritures enseignent, c'est que, eh bien, l'être humain ne peut être justifié que par la foi. Et ce soir, nous allons voir que Dieu s'est également révélé par le don d'une loi sainte. Le don d'une loi sainte. Alors, dans le livre d'Exode, au chapitre 20, nous avons hein, ces fameux 10 commandements que même, je dirais, autrefois, hein, beaucoup de gens connaissaient les 10 commandements, pouvaient au moins en réciter plusieurs des 10 commandements, si ce n'est tous les 10 commandements. Aujourd'hui, c'est chose rare. Si on pose la question aux gens, connaissez les 10 commandements, ils vont peut-être vous parler de la comédie musicale qui a eu un grand succès il y a des années de cela en France. Mais de pouvoir donner, citer les commandements que Dieu a donnés, cette loi sainte, ce qu'il a donné, qui a été aussi un fondement légal pour de nombreux pays. De nombreux pays, et surtout dans les pays occidentaux. Hein, que l'impact de ces lois, de ces idées mêmes que l'on trouve dans les 10 commandements, hein, on les retrouve aussi dans beaucoup, beaucoup de pays. Mais on sait effectivement que l'impact de ces commandements s'estompe, hein, chaque année s'estompe, et s'estompe même rapidement, hein, dans nos pays occidentaux. Même beaucoup de chrétiens, beaucoup de membres d'église ont même du mal à réciter hein, les 10 commandements, hein, peut-être parce qu'on ne les a pas forcément tous bien appris par cœur, peut-être qu'on devrait refaire ça chaque dimanche, hein, réapprendre les 10 commandements et les réciter ensemble pour se les remémorer. Mais voilà, Dieu a donné une loi, et une loi qui est sainte, et une loi qui est différente de toutes les autres lois que l'on retrouve sur terre. Alors lisons, si vous le voulez bien, déjà ce passage d'Exode chapitre 20, les versets 1 jusqu'à verset 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors effectivement, ici dans ce passage, l'Éternel Dieu a communiqué à son serviteur Moïse des lois importantes pour le peuple d'Israël. Et le contexte dans lequel cette loi était donnée est important. Et je crois que au début de ce passage qu'on a lu, vous avez noté avec moi que c'était parce que Dieu avait sorti la nation d'Israël de la servitude qu'ils subissaient dans le pays d'Égypte. Et donc Dieu avait donné ses commandements à Moïse 3 mois après la sortie du pays d'Égypte. Et on peut aisément comprendre que ces commandements marquent avant tout le point culminant de l'alliance établie par Dieu avec Moïse au Sinaï, à Horeb. Une alliance. Hein, d'ailleurs, quand on relit ce livre, il est surtout question, plus que des lois, il est question d'alliance, de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Et sans ces 10 commandements, hein, le reste de l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël n'a pas beaucoup de sens. Toutes les autres clauses de l'alliance, hein, ne font que confirmer et renforcer, hein, ce que Dieu a donné à Moïse et au peuple d'Israël. Il y a des promesses, certes. Il y a des choses que Dieu a décidé de faire pour le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël, lui aussi, avait des choses à accomplir pour l'Éternel. On se rappelle effectivement que cette loi, c'est Dieu qui l'a donnée, et quand il a donné cette loi, il y a un rappel, hein, qu'il a fait, c'est que j'ai sorti ce peuple de l'esclavage, hein, proclame Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, il y a déjà avant cela quelque chose d'important à comprendre, c'est que pendant toutes ces années où Israël avait été esclave en Égypte, plusieurs générations étaient passées, et que vraisemblablement, dans l'ensemble de la population hébreu qui se trouvait en Égypte, très peu connaissaient vraiment l'Éternel Dieu, hein, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Très peu. Et donc Dieu va devoir, et c'est ce qu'il a fait, hein, on relisait Exode 14 et la suite, on voit Dieu qui va montrer qui il est, il va manifester sa puissance, il va montrer, hein, au peuple d'Israël, après les avoir même sortis du pays d'Égypte, je suis le Dieu Tout-Puissant, hein, et ayez confiance en moi. Et donc, l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël a fait que Israël est devenu le peuple de l'Éternel. Et les Israélites ont constitué, hein, le peuple de Dieu, non seulement parce que, ben, comme tous les êtres humains, ils ont été créés par Dieu, mais à cause aussi de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, qu'on a vu, hein, la dernière fois, mais parce que Dieu les avait délivrés aussi de l'esclavage qu'ils subissaient en Égypte. Alors Dieu a donné ses commandements de manière extraordinaire. Il faut comprendre qu'en lisant ces passages, le chapitre juste avant, la manière dont Dieu a communiqué ses lois à Moïse, on a une terrible manifestation de puissance là. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein, que Moïse a pu vivre ce moment-là et de ce qu'il nous rapporte. Hein, mais il y a eu la violence de la tempête, le tremblement de terre, les éclairs, le grondement, la fumée. Hein, toutes ces choses n'ont pas seulement conféré beaucoup de solennité à cet événement, ils ont aussi inspiré la crainte respectueuse au peuple. Et ce peuple avait besoin de cela. On sait que quand on lis le livre des Proverbes, que la crainte du Seigneur, ce n'est pas simplement le commencement de la connaissance, de la sagesse, mais c'est aussi quelque chose de préventif quand il s'agit pour nous, lorsqu'on est face à un choix, lorsqu'il y a une tentation de pécher ou de ne pas pécher, que de se rappeler de ce grand Dieu tout-puissant et de la manière dont il a donné cette loi à son peuple. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, parle énormément. Hein. Et Dieu, donc, voulant que les Israélites sachent qu'il les a secourus, il leur a donné aussi cette loi, il leur a fait comprendre qu'il n'est pas juste, il n'est pas une idole, hein, il n'est pas une statue de pierre, hein, il est un Dieu vivant, il est un Dieu qui est proche de son peuple, il est un Dieu qui aime son peuple, il est un Dieu qui veut le bien de son peuple, mais il est aussi un Dieu redoutable, qu'il faut craindre. Et donc, comme Dieu est tellement terrifiant, les Israélites ont insisté même pour que Moïse se fasse l'intermédiaire, hein, le porte-parole entre Dieu et eux. Hein, ils avaient eu peur, hein, de ce qu'ils entendaient. Que voilà, non, Moïse, c'est toi qui vas parler à l'Éternel. Nous, on a trop peur pour s'approcher de l'Éternel. Et on voit dans même dans les versets 18 à 19, on voit qu'il y a aussi une promesse qui va être, pardon, dans le chapitre 18 de Deutéronome, il y a une promesse qui va être faite au peuple d'Israël, qu'il y aurait un autre prophète comme Moïse. Et on va se rappeler de ça, hein, pour un peu plus tard, parce que après cette loi que Dieu a donnée, le prochain point que l'on va voir quand Dieu s'est révélé à l'humanité, c'est aussi par la venue de Jésus-Christ. Et donc ce passage de Deutéronome annonce, est annonciateur de cette venue-là. Mais regardons au caractère unique de cette loi. Alors beaucoup de critiques de la Bible ont avancé comme argument que Moïse aurait copier les lois d'un autre code de loi qui existait auparavant. Et beaucoup accusent même Moïse de plagiat. Et c'est donc l'une des critiques les plus répandues, hein, concernant la loi de Moïse, c'est sa ressemblance avec le code de loi d'Amourabi, qui prédate la loi que l'on a ici dans Exode, de plusieurs centaines d'années. Amourabi était un roi babylonien qui régna de 1795 à 1750 avant Jésus-Christ. Et on se souvient aujourd'hui de lui pour avoir promu et appliqué donc ce code de loi, un code de loi organisé. Et ce code, qui fut redécouvert, par notre monde moderne en 1901, est l'un des écrits les plus anciens et les mieux préservés et les plus complets jamais découverts. Ce code est divisé donc en 12 sections, il comprend 282 lois, mais il y en a quand même environ 34 qui sont illisibles. Le code est principalement une formule au cas par cas, du droit coutumier couvrant les questions administratives, les questions civiles et pénales. Et la complexité des lois et leur sujet en disent long sur la culture babylonienne antique. Alors, 300 ans, environ 300 ans plus tard, on a Moïse qui reçoit donc cette loi de la part de Dieu et qu'il communique au peuple d'Israël. Mais comme la loi de Moïse présente certaines similitudes avec le code d'Amourabi, certains critiques de la Bible pensent que Moïse a donc copié le code d'Amourabi. Et si c'est donc le cas, alors bien sûr, on peut remettre en question beaucoup de choses concernant hein, les écrits de Moïse concernant la Bible elle-même, hein, l'inspiration des Écritures. Alors, quelles sont ces similitudes? Il y en a quelques-unes. Bon, la loi lévitique et le code d'Amourabi imposaient tous deux la peine de mort en cas d'adultère et en cas d'enlèvement. Hein, il existe également des similitudes, hein, par rapport à cette fameuse loi du talion, hein, le œil pour œil et dent pour dent, qu'on retrouve ce même concept dans le code d'Amourabi, comme on le retrouve dans la loi de Moïse. Vous avez un exemple de ce code de loi d'Amourabi au statut 206 qui dit: si au cours d'une querelle un homme frappe un autre et le blesse, il jurera, je ne l'ai pas blessé sciemment, et il paiera, hein, les médecins. On retrouve le même principe, Exode 21, versets 18-19, si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre, bien, viendrait à se lever, à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Donc, il y a, comme ça, effectivement, des similitudes entre les deux codes de loi. Il y a bien d'autres exemples, hein, qu'on ne prendra pas le temps de tous les mettre, mais ces ressemblances ne démontrent pas que Moïse a plagié le code d'Amourabi. Hein, ce que les similitudes montrent, c'est que le meurtre, le vol, l'adultère, l'enlèvement sont des problèmes que l'on retrouve dans toutes les sociétés, n'est-ce pas? Et donc effectivement, c'est normal que dans différentes sociétés, on va trouver des lois contre ces choses. Même aujourd'hui, hein, des pays du monde entier ont des lois qui sont très similaires à cela, hein, et où on doit dédommager même notre prochain, hein, si on l'a blessé, fait du mal. Mais ça ne signifie pas qu'on a volé l'idée, plagié, copié, hein, les textes de loi, hein, d'un autre pays. On devrait justement en fait s'attendre à ce que eh bien, des codes pénaux soient similaires dans plusieurs, hein, des sociétés civiles autour de nous. Babylone, Israël avaient toutes deux des lois, hein, contre le meurtre, mais ça ne veut pas dire que voilà, Moïse a volé cette idée-là dans le code d'Amourabi. Donc ces différences qui existent sont importantes à souligner. Parce que autant il y en a qui disent, voilà, il a copié, mais il y a tellement d'autres lois dans la loi de Moïse qui ne sont pas du tout dans le code d'Amourabi. Et donc il y a des différences à noter également. Hein, la loi de Moïse, elle allait bien au-delà du code d'Amourabi dans la mesure où elle était enracinée dans un culte d'un Dieu unique, suprême pour tous. Et c'est là où, effectivement, la loi de Moïse est bien différente du code d'Amourabi. Les principes moraux que l'on trouve dans l'Ancien Testament sont basés sur non pas un code de loi préexistant, mais sur un Dieu qui s'est révélé, un Dieu qui est juste et qui exige que son peuple, qui exige même que l'humanité, qui a été créée à son image, vive de manière juste, vive en correspondance avec la personne qu'il est. Et donc la loi de Moïse, c'est bien plus qu'un code juridique. Pourquoi? Parce qu'elle parle aussi du péché. Elle parle de responsabilité envers Dieu. Et le code d'Amourabi, et même les autres lois anciennes qui existent, parce qu'on en a retrouvé d'autres également, ne font pas cela. La loi de Moïse, elle est unique et différente dans le sens où Dieu est au centre de cette loi. Et c'est le rapport de l'être humain vis-à-vis de Dieu, et non pas le rapport de l'être humain vis-à-vis de la loi. Quand on regarde le code d'Amourabi, hein, il se concentre exclusivement sur des lois pénales, civiles, hein, il imposait même des peines sévères, parfois brutales, mais la loi de Moïse, elle assurait une justice. Elle traitait également des lois spirituelles et de la sainteté personnelle, de la sainteté même de la nation. Et donc en conséquence, la loi de Moïse, elle traitait surtout de la cause du crime. Il n'y a aucun texte de loi qui existe qui traite de la cause. Les textes de loi que l'on trouve dans les différents pays, c'est quoi? Quelqu'un a fait quelque chose de mal et il faut punir cette personne-là. Mais en aucun cas, on cherche à aider cette personne-là à se débarrasser de ce qu'il a causé à enfreindre la loi. La loi de Moïse, elle traite de la cause du crime et pas simplement de ses effets. Elle élève la valeur même de la vie humaine et son contenu est plus compatissant que celui du code d'Hammurabi. Il y a également cette dimension spirituelle, hein, que nous trouvons dans la loi de Moïse qui la rend vraiment unique. D'ailleurs, ici, hein, vous avez une citation de Fred Wright dans son ouvrage d'archéologie biblique. Il dit: La loi mosaïque met fortement l'accent sur la reconnaissance du péché comme étant la cause de la chute d'une nation. Une telle pensée est totalement absente du code d'Hammurabi. Le grand principe fondamental des lois de Dieu dans la Bible hébraïque peut être résumé par les mots Soyez saints, car je suis saint, qu'on retrouve dans Lévitique 11, 45. Un tel principe était totalement inconnu des Babyloniens, comme le montre leur code de loi. Donc il y a bien des différences et des différences de perspective vraiment spectaculaires entre Hammurabi et Moïse dans les codes de loi qu'ils nous ont laissés. La différence, elle est ainsi. C'est qu'il y a un code de loi qui se concentre sur ces relations horizontales, c'est-à-dire les relations entre les êtres humains. Et la loi de Moïse, elle traite de ces choses-là, mais surtout, elle traite de la relation verticale, c'est-à-dire de l'être humain vis-à-vis de Dieu. Un autre archéologue, Alfred Hirth, auteur de Archaeology and the Old Testament, déclare ceci: Le code de loi de l'Ancien Testament est orienté vers la religion, tandis que d'autres sont civils. Les Mésopotamiens croyaient que le dieu Shamash avait donné à Hammurabi son code de loi pour que les gens puissent s'entendre entre eux. Dans la Bible, le code de loi a été donné principalement pour que les gens puissent s'entendre avec Dieu. La loi de Moïse avait donc cet aspect fondamental qu'elle a été donnée pour que l'être humain puisse connaître Dieu et ainsi avoir cette relation avec lui. Si on regarde au code d'Hammurabi, hein, il se rapproche davantage des relations, hein, humaines, mais le seul point où on parle peut-être un peu de spiritualité, hein, c'était quand il y avait une loi qui parlait du fait que certains, hein, volaient les dieux, hein, peut-être dans les offrandes qu'ils devaient ou je ne sais pas quoi, mais qui étaient mis à mort. Et donc, contrairement à la loi mosaïque, ce code d'Hammurabi ne prévoyait non plus aucune disposition relative au pardon. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez exceptionnel par rapport à la loi de Moïse, c'est que la loi de Moïse, elle cherche aussi à rétablir les choses, n'est-ce pas? Donc cette théorie selon laquelle la loi de Moïse est simplement la reformulation de la loi d'Hammurabi a été largement abandonnée même aujourd'hui, en raison du fait que des codes de loi similaires, encore plus anciens que celui d'Hammurabi, ont été retrouvés à divers endroits. Hein, il y a des lois cunéiformes, hein, écrites dès 2350 avant Jésus-Christ, le code du Rukagina 2381 Jésus-Christ, le code d'Ur-Nammu en 2050 avant Jésus-Christ, et bien d'autres encore ont été retrouvés. Donc ce que l'on a là vraiment, c'est une accusation infondée. Quand quelqu'un dit que oui, ben, les lois de Moïse, voilà, il appliquait ça à Hammurabi et qui datait de plusieurs siècles avant, ça prouve que la Bible, ça a été écrit par un homme, plusieurs hommes, hein, que ce n'est pas de révélation de Dieu. Ce qu'on cherche à montrer ici, c'est que, un, les similitudes qui existent ne prouvent pas que ça a été copié, plagié, parce qu'il y a plein d'autres différences. Et la différence la plus flagrante, c'est que, voilà, la loi de Moïse, c'est surtout par rapport à la relation de l'être humain avec Dieu, et pas juste la relation des êtres humains entre eux. Les notions, hein, de pardon, hein, et quelque chose qui est extraordinaire aussi dans la loi de Moïse. Et ça nous montre qu'on ne peut pas laisser les gens simplement dire, hein, la Bible, elle a fait que copier ce qui existait déjà. Non, ce n'était pas du tout le cas. Hein, Hammurabi et Moïse ont tous deux consigné un système, oui, complexe de lois, hein, qui était unique à leur époque. Hammurabi prétendait avoir reçu son code du dieu babylonien de la justice Shamash. Moïse, lui, a reçu la loi de Dieu au sommet du mont Sinaï, directement de Yahvé, le dieu des Israélites. Il existe, oui, des similitudes entre ces deux lois, comme on peut s'y attendre, hein, lorsqu'on compare différents systèmes législatifs, on va trouver des similitudes. Mais les différences sont tellement importantes que cela montre que cette accusation, elle est infondée. Ce que je veux souligner, finalement, c'est surtout les objectifs uniques de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Parce qu'on est en train de voir que Dieu s'est révélé à l'humanité en donnant cette loi. Et cette loi, elle nous montre qui est Dieu, elle nous montre comment nous devons interagir aussi avec Dieu. La loi de Moïse a été donnée spécifiquement à la nation d'Israël. Hein, dans le Lévitique, chapitre 26, verset 46, il nous est dit que tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur le mont Sinaï par Moïse. Et plus tard, beaucoup plus tard, l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 9, verset 4, il parle justement des Israélites, hein, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. Donc c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. C'est que cette loi que Moïse a donnée, elle avait été donnée spécifiquement à une nation, la nation d'Israël. On constate qu'elle est composée de trois grandes parties, hein, ces 10 commandements, mais il y avait aussi des ordonnances. Hein, des ordonnances du type tu inculqueras ces choses à tes enfants, hein, c'est l'idée que de transmission, hein, de ces lois, etc. Mais il y avait aussi toutes sortes de lois concernant le système du culte, hein, qui concernait le service des Lévites dans le tabernacle et pour plus tard dans le temple. Et donc le but de la loi, hein, que Dieu a donnée à Moïse, donc, était aussi d'accomplir plusieurs choses. D'abord, révéler le caractère saint du Dieu éternel à la nation d'Israël. C'est là où on parle de Dieu qui se révèle à travers la loi. C'est vraiment à partir de ce moment-là que l'on comprend que Dieu est saint. Vous pouvez relire Genèse jusqu'à ce livre d'Exode, trouvez-moi le mot saint. Dieu se révèle vraiment comme ce Dieu saint ici avec cette loi donnée à Moïse. Lévitique chapitre 19, verset 2, il dit: Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et plus loin au chapitre 20, versets 7 et 8, il dit: vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, la loi a vraiment servi à nous révéler que Dieu est saint. Et encore une fois, la sainteté, c'est la pureté. C'est la perfection, c'est la séparation d'avec le mal, d'avec le péché. Un des autres objectifs de la loi donnée à Moïse et à la nation d'Israël, c'était de justement mettre la nation d'Israël à part par rapport aux autres nations. Au chapitre 19 et verset 5, il dit: Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc il y avait cette alliance vraiment avec ce peuple choisi, qui appartenait à Dieu, hein, qui devait donc être différente des autres nations. Et la loi a permis justement à ce que la nation d'Israël soit différente. Ce n'était pas juste le fait d'appartenir à Dieu qui les rendait différents, c'était le fait qu'ils vivent selon les lois de Dieu, mais selon aussi ben, le saint caractère de Dieu, hein, et qu'ils suivent ses lois et ses ordonnances pour honorer et glorifier le Dieu saint. Autre objectif de la loi, ça a été de révéler la nature pécheresse de l'être humain. Hein, bien que la loi soit bonne et sainte, il faut rappeler qu'elle n'a pas apporté le salut à la nation d'Israël. Son objectif n'était pas de sauver Israël. Son objectif était de montrer à Israël et ensuite au reste de l'humanité que Dieu est saint et voici les choses qui nous rendent pécheurs. Voici les lois hein, que Dieu nous a données et qui montrent en quoi nous sommes pécheurs. Paul, il nous rappelle dans Galates 3,19 que la loi a été donnée à cause des transgressions. Hein, elle a été donnée jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc, Paul, il nous rappelle que la loi avait été donnée à cause du péché dont nous étions déjà coupables. Et elle nous a montré ce que c'était le péché. Dans Romains chapitre 7, verset 12, il nous dit donc que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Mais il nous a déjà dit aussi, au chapitre 3, verset 20, que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc ce que la loi a fait vraiment, c'est de nous enseigner ce qu'est le péché. On peut même citer ce passage d'Actes 13, versets 38 à 39. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc la loi a vraiment donc servi à nous montrer ce que Dieu appelle le péché. Autre objectif, c'était aussi d'offrir le pardon. Et il faut faire aussi cette distinction ici hein, entre la justification, qui est donc le salut de l'âme, et le pardon par rapport aux offenses commises. Et donc, la loi que Dieu a donnée à Moïse a permis aussi au peuple d'Israël d'avoir un moyen par lequel ils pouvaient apporter des sacrifices et des offrandes pour recevoir le pardon pour leurs péchés. Mais ce n'est pas ça qui les sauvait. La loi a offert aussi un moyen de culte hein, au peuple d'Israël, à la communauté hein, de foi, et en donnant toutes sortes de fêtes annuelles qu'ils devaient célébrer également. Tous les codes donnés aussi hein, au peuple, à la tribu des Lévites, hein, sur la manière de servir Dieu hein, dans le tabernacle, dans le temple. La loi a servi aussi pour fournir la direction de Dieu hein, pour la santé physique, pour la santé spirituelle de la nation d'Israël. Et puis finalement, la loi a révélé à l'humanité que personne ne peut arriver à respecter la loi entièrement. Tout le monde n'atteint pas la norme de sainteté de Dieu. On ne peut pas. Hein, la loi nous a montré cela. Déjà, le fait que quand on lit la loi, on se rend compte que j'ai déjà péché. Ça nous montre que je ne peux pas avoir la même sainteté que Dieu. Et donc cette prise de conscience, quand on lit la loi, elle nous pousse justement à compter sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Hein, parce qu'en tout, hein, ce sont plus de 600 lois qui avaient été données. On sait que dans le code pénal français, il y en a beaucoup trop pour essayer de les retenir. Mais déjà, 600 lois, c'est énorme qui avaient été données. Mais là, avec ces lois, celles qu'on appelle ces 10 commandements, ce sont 10 commandements qui vraiment aident chaque être humain, déjà dans sa relation avec Dieu, parce que les premiers commandements, c'est la relation de l'être humain avec Dieu, et ensuite la relation des êtres humains vis-à-vis des êtres humains, mais c'est toujours en rapport avec la sainteté de Dieu. Et lorsque Christ est venu, il a accompli toute la loi. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il est homme à la fois, parce qu'il n'a jamais péché et qu'il a tout accompli parfaitement la loi. Parce que la Bible nous dit justement que celui hein, qui même a pu suivre toute la loi, mais qui s'est rendu coupable d'une loi, ben, il est coupable de la loi entière. Mais Christ n'a jamais péché. Il a accompli la loi et par sa mort, il a payé le prix de notre transgression. Et par la foi en lui, chaque croyant hein, se voit imputer la justice même de Christ. C'est-à-dire que ce que Christ a accompli s'est mis sur notre compte. Moi, je suis incapable de suivre toute la loi. Christ l'a fait pour moi. Et en plaçant ma foi en lui, eh bien voilà. Ce que moi, je ne parvenais pas à faire pour avoir le salut de mon âme, en suivant toutes les lois, par Christ, j'obtiens ce salut. Et ça dépend entièrement de la grâce de Dieu et de la miséricorde de Dieu et de ma foi que je place en lui. Donc lorsque Dieu révéla sa loi à Moïse, il a révélé qu'il est un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu aimant et un Dieu miséricordieux. Et Israël avait cette responsabilité, oui, de suivre toutes ces lois, mais aussi de faire connaître le seul et unique vrai Dieu au reste de l'humanité. Et voilà pourquoi la loi de Moïse, ce don que Dieu a fait à la nation d'Israël par ce code de loi, nous montre encore une fois que Dieu, il est intervenu dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est un code de loi qui a vraiment changé beaucoup de choses pour la nation d'Israël, mais aussi pour d'autres nations à travers le monde. Ça a changé beaucoup de choses pour ceux qui ont placé leur foi en Dieu. Et cette loi de Moïse, parce que justement, elle parle de la sainteté de Dieu, qu'elle parle de son amour pour nous, qu'elle nous parle aussi de nos responsabilités vis-à-vis de lui et de nos prochains, qu'elle nous parle du pardon, qu'elle nous parle de toutes ces choses-là, ça montre encore une fois que c'est quelque chose qui ne peut venir que de Dieu et non pas de l'être humain.